Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous avez reçu la newsletter, il n'était pas prévu que je prêche aujourd'hui. Renato étant souffrant, il a préféré s'abstenir de venir et de nous contaminer, donc c'est gentil de sa part. Et il m'a demandé éventuellement je pouvais prendre la relève. Alors, je ne vais pas prêcher sur le texte qui était prévu, parce que, évidemment, j'ai pas eu le temps de le préparer. Mais il se trouve, et je commencerai par là, petite anecdote. Ce matin, j'étais au CEP, à l'église du CEP, notre église voisine à Saint-Maur, pour prêcher sur ce que je vais vous partager là cet après-midi, et qui porte sur le thème de l'offrande. Et il se trouve que ce thème-là, on comptait de toute manière, à un moment donné, l'aborder. Je ne pensais pas que ce serait aussitôt. Mais je crois que voilà, vu les circonstances, il est clair que le Seigneur veut que je vous parle de ce thème-là aujourd'hui. Vous connaissez sans doute au moins une de ces enseignes, un de ces noms. Litchi, le pot commun, GoFundMe, Alvarum, etc. Qui a déjà participé à une cagnotte de ce genre ? Ou autre chose, hein, si c'est pas ce site. Autre question, qui a déjà donné généreusement ? Ah, il y a beaucoup moins déjà. Tous ces sites, pour ceux qui ne connaissent pas, tous ces sites vous permettent d'organiser ou de participer à une collecte financière pour diverses raisons. Défendre une cause, cotiser pour un cadeau commun, lever des fonds pour soutenir une ou des personnes en difficulté, et même participer au lancement d'un projet artistique. Je n'ai pas vérifié les statistiques, mais je pense que c'est un concept qui fonctionne plutôt bien. Et nous avons l'impression, lorsque nous donnons, nous avons l'impression de contribuer véritablement à quelque chose. Nous nous sentons peut-être même généreux lorsque nous le faisons. Et bien des siècles avant Litchi et compagnie, l'apôtre Paul s'est occupé d'une collecte. Une collecte en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Ils étaient pauvres parce que fortement éprouvés, sans doute, par une famine qui avait eu lieu à cette époque. Et donc, l'apôtre Paul s'est occupé de cette collecte. Le litchi de l'époque. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il évoque ce sujet sans détour. Nous apprenons notamment au chapitre 8 que les chrétiens de l'église de Corinthe étaient les initiateurs de cette collecte. Et donc l'apôtre leur demande simplement de terminer ce qu'ils ont commencé. En résumé, je vais vous le résumer de cette manière-là, Paul leur écrit: j'aimerais vous dire que vos frères et sœurs de Macédoine ont insisté pour participer à cette collecte. Et pourtant, ils étaient bien pauvres. Ce n'est pas quelque chose que je veux vous imposer. Souvenez-vous de la grâce de Jésus-Christ. Lui qui s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. À présent, je ne vous demande pas de donner au-delà de vos moyens. Il s'agit plutôt de suivre le principe de l'égalité. Puisque vous avez suffisamment à partager, vous pouvez pourvoir aux besoins de vos frères et sœurs, de telle sorte que chacun ait ce qui est nécessaire. Voilà pour le résumé que vous pourrez lire plus amplement dans le chapitre 8. Et après avoir évoqué des considérations pratiques, comme le fait d'envoyer des délégués pour finaliser cette collecte à Corinthe, Paul encourage de nouveau les Corinthiens à donner, et à donner généreusement. Et nous arrivons au texte d'aujourd'hui. Donc je vous propose de lire le passage d'aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 9, des versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. L'intention de l'apôtre Paul est claire ici. Les Corinthiens sont encouragés à être généreux, à donner abondamment, à semer abondamment, et tout cela sous le regard de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de répondre à un besoin matériel, mais aussi de manifester cette générosité dans un cadre spirituel, dans un cadre fraternel. Après tout, il s'agit d'aider des membres de la même famille, la famille de Dieu. Et pour nous, cela nous conduit, en tout cas cet après-midi, à réfléchir à cette question de la générosité et à son application dans notre vie, et en particulier dans notre vie d'Église. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Selon le texte, Dieu attend de nous que nous soyons dans l'Église des donateurs généreux. Dieu attend de nous que nous soyons dans l'Église des donateurs généreux. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur trois certitudes que nous trouvons dans notre texte. D'abord, que Dieu aime le donateur joyeux. La deuxième certitude, que Dieu lui-même est notre généreux donateur. Et troisième certitude, que Dieu sera le donateur glorifié. Donc commençons par cette première certitude. Dieu aime le donateur joyeux. Au verset 6, l'apôtre Paul énonce un principe de cause à effet que nous connaissons bien. On récolte ce qu'on a sauvé. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors cela semble évident et on n'a pas besoin d'être agriculteur pour vérifier la chose. Mais ce qui est original ici, c'est que Paul emploie cette image agricole pour comparer celui qui donne généreusement, celui qui donne de ses biens généreusement, à un semeur qui sème abondamment. Voilà ce qui est original ici. Alors, dans ce cas-là, que signifie ici, pour celui qui donne abondamment, eh bien, une moisson abondante? Qu'est-ce que ça signifie, une moisson abondante pour lui? Eh bien, ce sont précisément les bénédictions qui sont évoquées ici dans notre texte et que nous verrons par la suite. Donc, je vous fais un petit peu patienter. Verset 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un verset bien connu. Alors, on ne le cite plus trop dans notre Église. Il est toujours affiché avec sa référence. Mais oui, on cite souvent, dans les églises en général, ce verset, au moment où on introduit le moment de l'offrande. Mais est-ce qu'il est légitime d'utiliser ce verset 7 pour parler de l'offrande, étant donné le contexte ? Eh bien oui, puisqu'il est question quand même de donner d'une façon qui plaise à Dieu. Or, l'offrande est ce geste volontaire qui exprime notre reconnaissance envers Dieu pour sa grâce et pour ses bienfaits. Alors certes, dans le contexte, il s'agit d'une collecte, c'est une situation particulière, mais en même temps, nous avons des éléments très précis sur la manière de donner quand nous mettons notre argent en commun. Et nous pouvons relever qu'il s'agit d'abord d'une décision individuelle et intérieure, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. C'est une décision personnelle. Ce qui signifie que le montant de notre offrande est laissé à notre appréciation. Et c'est en cela que ce geste est considéré comme libre et volontaire. Ensuite, que le sentiment de regret et la pression de la contrainte soient bannis. Il est exclu que des chrétiens qui ont tant reçu de Dieu donnent en ayant le cœur lourd. La seule attitude qui convienne et que Dieu agrée, c'est la joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie, c'est-à-dire celui qui donne de bon cœur, sans regretter ce qui peut sembler être une perte. C'est un vrai test pour nous. Sommes-nous tristes au moment de donner une part de l'argent que nous avons peut-être durement gagné ? Et si c'est le cas, cela révèle sans doute que notre attachement à l'argent est plus grand que ce que nous pensons. La joie, au contraire, révèle là où nous avons placé notre cœur. Nous donnons avec joie parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Mes amis, c'est la bonne attitude du cœur qui importe pour Dieu, bien avant le montant de notre offrande. C'est l'attitude du cœur qui importe pour Dieu, bien avant le montant de notre offrande. La joie n'est pas une émotion neutre, mais elle accompagne le don généreux. Et quand je dis généreux, j'ai conscience que le sens peut être différent d'une personne à l'autre, selon notre situation. Nous ne pouvons pas tous nous permettre d'être généreux de la même manière. Et peut-être plus particulièrement pour ceux d'entre nous qui connaissent quelques difficultés financières, la générosité semble peut-être un mot pesant. Mais en réalité, laissez-vous rassurer par cette parole de l'Écriture. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 12, « Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. En tenant compte de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Et nous en venons toujours à l'attitude du cœur qui prime dans notre attention de donner. Et cette attitude-là, c'est la joie. Alors au moment de l'offrande, quelle est l'attitude ? Petit accident. Revenons à un sujet plus sérieux. Au moment de l'offrande, quelle est l'attitude de votre cœur ? Qu'est-ce qui vous anime lorsque vous donnez ? Est-ce qu'il y a un reste de regret ? Est-ce qu'il y a une certaine tristesse ? Peut-être subsiste encore une peur de manquer. Si je donne, est-ce que je ne vais pas manquer un peu ? Peut-être tout simplement l'indifférence parce que nous donnons par habitude. Mais j'espère bien que nous allons adopter l'attitude qui plaît à Dieu, la joie. Lorsque nous souhaitons contribuer à un projet qui nous tient particulièrement à cœur, nous sommes prêts à donner avec joie. Nous sommes même prêts à donner avec une certaine excitation, n'est-ce pas ? Si ce projet nous tient vraiment à cœur, eh bien, donner ne pose pas de problème. Parce que nous voulons tellement que ce projet se réalise. Mais soyons d'autant plus enthousiastes quand il s'agit des projets de Dieu. Pour les Corinthiens, il s'agissait de soutenir leurs frères et sœurs de Jérusalem. Et pour nous, Église de Saint-Maur, quels sont les projets qui nous amèneront à donner avec joie ? Par exemple, voir l'Évangile se répandre autour de nous. Permettre peut-être aux enfants de l'Église de participer à un camp chrétien cet été. Ou bien encore, envoyer de futurs serviteurs de Dieu en formation biblique. Pour tout cela, il faut de l'argent. Que le Seigneur forme en nous les bonnes dispositions du cœur pour donner généreusement. Dieu aime le donateur joyeux, nous dit l'apôtre Paul. C'est une première certitude qui nous encourage à être généreux. La seconde est que Dieu lui-même est notre donateur généreux. Dieu lui-même est notre généreux donateur. Alors, il n'est peut-être pas toujours courant de dire que Dieu est un donateur, mais c'est ce qu'il est. Il nous donne tellement. Parfois, lorsque nous parlons de l'offrande, nous aimons dire que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et c'est vrai, Dieu est notre plus grand donateur. Et en réalité, c'est lui qui nous montre l'exemple. Alors, regardez avec moi le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. J'aimerais juste m'arrêter sur ce verbe, le verbe pouvoir. Dieu peut. Si les chrétiens de Corinthe avaient quelques craintes concernant l'avenir, l'apôtre Paul vient de le dissiper par ce seul verbe, Dieu peut. Il en a le pouvoir, il en a la capacité. Et Paul assure aux Corinthiens que le Dieu de tout l'univers a la capacité de pourvoir à tous les besoins. Et qu'il a la capacité d'y ajouter ce qu'il faut pour pouvoir encore donner. Chers amis, nous aussi, nous pouvons donner généreusement parce que nous savons que Dieu peut pourvoir. Est-ce que vous avez remarqué la répétition du mot « tout » dans ce verset ? Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez en abondance pour toute œuvre bonne. Notre Dieu, Créateur, ne manque de rien. Et il veille, dans sa grâce et dans son amour, à nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est une promesse digne de foi. Non seulement nous ne manquerons de rien, mais nous aurons suffisamment pour être généreux. Rappelons-nous que c'est Dieu qui donne la capacité de donner. Dieu nous donne la capacité de donner. Les ressources que nous avons viennent de lui. Pour le dire encore autrement, Dieu nous donne lui-même les ressources pour que nous soyons généreux. Nous avons et nous aurons ce qu'il faut. C'est ça qui est incroyable. et les occasions de donner ne manquent pas. Paul écrit « Dieu pourvoit pour que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Toute œuvre bonne indique que nous pouvons nous impliquer dans diverses causes, à titre personnel ou collectivement en Église. Lisons encore la suite, verset 9. « Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. » Paul cite ici le psaume 112. Le psaume 112 dresse le portrait de l'homme juste, de celui qui craint l'Éternel. Et dans ce portrait de l'homme juste, une de ses caractéristiques, c'est la générosité. L'homme juste distribue une partie de ses biens aux pauvres. Et Dieu considère, vous le voyez ici, Dieu considère cette conduite tout à fait juste. Et cet exemple correspond très bien à la situation des Corinthiens, puisqu'ils sont exhortés à venir en aide à des frères et sœurs qui sont plus pauvres qu'eux. Voilà pour quelle œuvre bonne, pour quelle œuvre juste Dieu a pourvu pour les Corinthiens, afin qu'ils puissent donner. Et ce n'est pas fini. Verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Selon les traductions, nous avons soit une sorte de prière, comme c'est le cas ici, soit une affirmation de l'apôtre Paul. Dieu fournira, multipliera la semence et augmentera les fruits de la justice. Tous ces verbes ont Dieu pour sujet et nous parlent de sa provision et nous parlent de l'abondance. Dieu est généreux avec nous. D'ailleurs, Paul cite ici un autre texte de l'Ancien Testament, une partie du verset d'Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et la suite dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Tout comme Dieu agit efficacement pour donner au semeur ce qu'il lui faut, la parole de Dieu est efficace. Elle ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Et nous sommes face donc à une certitude. Dieu pourvoit aux besoins du semeur. Et combien à plus forte raison le fera-t-il pour nous ? Mais il faut attendre encore un peu pour parler des fruits de cette justice, de cette moisson abondante. Et puisque Dieu pourvoit la semence, eh bien, Paul peut en déduire, ainsi, verset 11, « Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. » Et nous retrouvons encore la répétition du mot « tout », à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Cela nous montre combien notre Dieu est généreux. Et dans ces circonstances, nous n'avons pas de prétexte pour ne pas donner. Dieu a tout préparé pour rendre notre générosité possible. Est-ce que Dieu va nous demander de donner quelque chose que nous n'avons pas ? Non. Il est bien celui qui donne suffisamment pour nos besoins et qui donne suffisamment pour nos dons généreux. Et en sachant cela, comment gérons-nous ce que Dieu nous donne gracieusement et généreusement ? Bien évidemment, certains ont plus que d'autres. Les Corinthiens avaient plus que les croyants de Macédoine. Est-ce que chacun pouvait donner ? Oui. Les Corinthiens on l'apprend par la suite, mais les Corinthiens ont pu donner. Et les Macédoniens, qui étaient beaucoup plus pauvres, ont pu donner. Tout simplement parce que c'est Dieu qui fournit l'argent nécessaire. Et cela nous place en face de notre responsabilité par rapport à la gestion de notre argent. Si nous croyons que Dieu nous a donné assez pour donner à notre tour, qu'est-ce que nous allons mettre de côté ? Avons-nous conservé suffisamment pour toutes sortes d'œuvres bonnes ? Et encore une fois, je ne veux vraiment pas faire fi des difficultés que peut-être certains connaîtraient. Il est parfois bien difficile de joindre les deux bouts, comme on dit. Pourtant, la parole de Dieu est sûre, fiable. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit, notamment quand nous avons la possibilité de travailler. C'est Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit quand nous recevons des aides. Et Dieu pourvoit aussi quand l'Église nous vient en aide. Avec ce que Dieu nous donne, nous avons la capacité d'être généreux. Nous avons vu deux certitudes qui nous encouragent à être généreux. Dieu aime le donateur joyeux. Et Dieu, en tant que généreux donateur, pourvoit lui-même à notre générosité. Mais il nous reste à évoquer une troisième certitude, que Dieu sera le donateur glorifié. Et j'utilise ici le futur, puisque en ce qui concerne la situation des Corinthiens, la collecte n'est pas terminée, et que cette collecte n'a pas encore été apportée aux croyants de Jérusalem. Mais si les Corinthiens font preuve de générosité, les fruits, les conséquences ne vont pas concerner seulement l'aide qu'ils auront apportée aux croyants de Jérusalem. Regardez de nouveau le verset 11. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Nous avons notre moisson. Des prières de reconnaissance vers Dieu. L'apôtre Paul montre aux Corinthiens l'effet de leur générosité. Au moment où les croyants de Jérusalem recevront cette collecte, ils remercieront Dieu, car ils reconnaîtront que cette collecte fait partie des bienfaits qui viennent de Dieu. Et nous retrouvons encore ce thème de la reconnaissance au verset 12. Et vous voyez aussi qu'il y a conjointement le thème de l'abondance. Par cet acte de générosité, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Souvenez-vous, semence abondante, moisson abondante. C'est cette moisson-là dont il s'agit. C'est Dieu qui est glorifié. Cette moisson, ce sont toutes ces prières qui montent vers Dieu et qui le glorifient. Ce qui compte, ce n'est pas que les Corinthiens reçoivent les éloges parce qu'ils ont été généreux. Mais ce qui compte, c'est que Dieu soit directement loué pour avoir inspiré cet acte d'amour. Et le don généreux est en effet un geste d'amour. En particulier ici, un geste d'amour envers les saints, c'est-à-dire envers ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Mais la louange continue, et je vous invite à voir avec moi le verset 13. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance, et puis un peu plus loin, et de votre générosité. Ils célèbrent la gloire de Dieu. Lorsque les chrétiens de Jérusalem recevront la collecte, ils reconnaîtront l'œuvre de Dieu à travers l'obéissance des Corinthiens. Et vous voyez que cette obéissance n'est pas une obéissance à Paul, mais une obéissance à l'évangile de Christ. Alors je me suis posé la question, À quoi l'apôtre Paul fait-il allusion lorsqu'il parle de l'évangile de Christ ? Et il me semble, avec quelques commentaires à l'appui, que la générosité des Corinthiens, cette générosité va démontrer leur compréhension du message de l'évangile. À savoir que Christ est mort et ressuscité pour racheter, pour justifier un peuple qui comprend juifs et non-juifs. En réalité, c'est l'enjeu de cette collecte, de rassembler des croyants d'origine juive et des croyants d'origine non-juive sous la seigneurie de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul insiste autant là-dessus. C'est pour ça que Paul leur a écrit durant 2 chapitres sur ce sujet. En contribuant à la collecte, les chrétiens d'origine non-juive, c'est-à-dire les Corinthiens, tendent leur main fraternelle aux frères et sœurs d'origine juive. Et ainsi, ils vivent vraiment l'Évangile. Et cette communion, d'ailleurs, est réciproque. Verset 14. Ils, c'est-à-dire les croyants de Jérusalem, ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. La communion est réciproque. Et sans doute que ni les uns ni les autres ne se sont jamais rencontrés. Mais cela n'empêchera pas les croyants de Jérusalem de prier pour les Corinthiens, en reconnaissant qu'ils ont eux aussi reçu la même grâce surabondante de Dieu. Et Paul finit par adresser une louange au donateur suprême pour son don incomparable. Dans une version plus littérale, il est question d'un don indicible, c'est-à-dire un don dont on ne trouverait même pas les mots pour le décrire, tellement il est incroyable. Quel est ce don incomparable que Dieu nous donne ? Eh bien, il a été mentionné précédemment, c'est cette grâce surabondante qui a été rendue manifeste lorsque Jésus-Christ est venu parmi nous. C'est en Jésus-Christ que nous avons ce don incomparable. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Que Dieu soit remercié !» Et il n'y a pas de mots suffisamment reconnaissants pour pouvoir exprimer combien ce don nous est précieux. Oui, cette grâce surabondante a été rendue manifeste lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il s'est donné à la croix, se faisant pauvre, lui qui était riche, se faisant pauvre afin que nous soyons riches. Comprenez bien, afin que nous ayons la vie éternelle. Cette grâce de Dieu devrait nous remplir à notre tour de reconnaissance. Et c'est aussi cette grâce de Dieu qui nous motive à être des donateurs généreux. Parce que nous avons déjà tout reçu de lui. Et assurément, donner généreusement est un acte qui glorifie Dieu. Notamment quand cela implique de venir en aide aux autres membres du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, des associations comme Portes Ouvertes proposent de soutenir financièrement des chrétiens dans une situation critique. Et nous pouvons aisément imaginer, lorsqu'ils recevront ces dons, les prières qu'ils adresseront à Dieu, des prières de reconnaissance. Et c'est ce que nous recherchons. De même, soyons généreux avec nos frères et sœurs missionnaires qui comptent sur le soutien du peuple de Dieu. Grâce à mon passage à l'Institut biblique de Nogent, j'en connais quelques-uns. Et je réfléchis déjà à la manière de les soutenir généreusement. Et bien sûr, si vous en connaissez, vous pouvez avoir une initiative personnelle. Mais pourquoi ne pas se mettre à plusieurs ? Peut-être pas forcément dans le cadre de l'offrande le dimanche, mais pourquoi pas se mettre à plusieurs pour rassembler une somme plus importante et l'envoyer à ces missionnaires. Et nous prions que cette générosité-là puisse avoir l'effet escompté, c'est-à-dire d'abondantes prières de reconnaissance, des louanges à la gloire de Dieu. C'est ce que nous moissonnerons. Alors que l'Esprit du Seigneur nous inspire à donner généreusement, là où le besoin est présent, et que toute la louange revienne à notre Dieu, le donateur par excellence. Notre société contemporaine cherche des donateurs généreux. Et nous avons aussi un rôle à jouer quand il s'agit de répondre à certaines sollicitations. Et à chacun de donner selon ses moyens. Mais aujourd'hui, l'exhortation de l'apôtre Paul concerne la générosité et son implication dans l'Église locale. Dieu attend de nous que nous soyons des chrétiens généreux. Et très clairement, financièrement généreux. Généreux en particulier dans le soutien que nous pouvons apporter aux membres de la même famille, les membres de la famille de Dieu. Nous avons vu que Dieu aime le donateur joyeux qui ne reconnaît qu'un seul maître, Dieu et non l'argent. Nous avons vu que Dieu est notre généreux donateur qui pourvoit à nos besoins et qui nous donne la capacité d'être généreux à notre tour. Et puis nous avons vu que Dieu sera le donateur glorifié lorsque nous soutiendrons des frères et sœurs dans le besoin, lorsque nous obéirons à l'évangile de Christ. Et vous voyez, notre générosité repose sur ces trois certitudes, au moins. Nous avons chacun à considérer les bienfaits de Dieu, et en particulier la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance qu'à l'avenir, Dieu continuera de pourvoir. Ces projets concernent l'avancement de son royaume, comme nous le prions parfois. Ces projets concernent l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations. Ces projets nous concernent si nous faisons partie du peuple de Dieu. Alors sommes-nous prêts à y participer généreusement ? Je vous invite à prendre un temps pour prier, pour répondre à la parole de Dieu, à l'exhortation qui vous a été adressée de sa part. À peut-être prendre une résolution dans votre cœur, bien sûr, par rapport à ce thème de la générosité. Et que ce soit Dieu lui-même qui vous inspire les projets, là où vous pouvez donner généreusement. En tout premier lieu, Seigneur, nous te remercions pour ton don incomparable, pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Et en lui, tu nous as tout donné. Nous ne manquons de rien, parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle, comme nous l'avons chanté aussi. Merci, Seigneur, parce que jusqu'à maintenant, tu as veillé sur nous. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as accordé avec générosité tout ce que nous avons. Apprends-nous, Seigneur, à être des donateurs joyeux, à être des donateurs généreux, comme tu l'attends de notre part. Apprends-nous, Seigneur, à mettre en action ta parole et à être prompte à t'obéir. Merci parce que par notre générosité, tu pourvois aussi aux besoins des autres. par notre générosité, tu bénis d'autres personnes. Que ce soit des croyants ou des non-croyants, Seigneur, tu nous permets d'être suffisamment généreux. Nous te louons, Seigneur, pour encore une fois la grâce surabondante que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Amen.